Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 1er novembre 2023. L'opposant tchadien Succès Massra met fin à son exil suite à un accord avec les militaires au pouvoir N'Djamena grâce à une médiation de la RDC. Au Niger, le procureur de Niamey confirme une tentative d'évasion du président déchu Mohamed Bazoum. Au Mali, psychose dans la ville de Kidal sous tension après le départ précipité de la mission onusienne.
Maintenant, reste à savoir quelle est la suite qui sera donnée au départ de l'aménagement, vu que les troupes maliennes, l'armée malienne n'est pas loin de Kidal, ils sont à 600 et quelques kilomètres de Kidal.
Dans la partie magazine, le témoignage d'habitants qui craignent un affrontement entre rebelles et forces armées maliennes. Plusieurs dizaines d'étrangers de Palestiniens gravement blessés ont été évacués aujourd'hui de la bande de Gaza vers l'Égypte dans le cadre d'un accord conclu après une médiation du Qatar. Premier sommet international sur l'intelligence artificielle au Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et une vingtaine de pays signent une déclaration commune pour atténuer les risques liés à cette technologie. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. L'opposant tchadien Succès Massra a signé un accord avec les militaires au pouvoir pour son retour au pays après un an d'exil. L'annonce a été faite par le président congolais Félix Tshisekedi, facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale au Tchad. Nathalie Barche.
Un accord de principe a été signé à Kinshasa entre le gouvernement de la transition tchadien et le parti politique Les Transformateurs pour permettre le retour au Tchad de son président Succès Massra, indique le communiqué. L'accord qui prévoit le retour de tous ceux qui ont eu à quitter le territoire tchadien a été signé par messieurs Tshisekedi, Massra et le ministre tchadien de la Réconciliation, Abderrahman Koulamala. Chacun a fait un pas vers l'autre, a déclaré l'opposant, ajoutant que le peuple tchadien est en train de faire un pas vers la justice et l'égalité. Le ministre de la Réconciliation a déclaré qu'il ne peut y avoir de paix sans une véritable démocratie qui permet l'expression libre du suffrage universel. Plusieurs opposants, dont Succès Massra, ont quitté le Tchad après la répression d'une manifestation de l'opposition le 20 octobre 2022. Selon les autorités, une cinquantaine de personnes ont péri, tandis que l'opposition et des ONG affirment que les violences ont fait au moins 300 morts. Quelques 600 jeunes, dont 80 mineurs, avaient été conduits dans une prison au milieu du désert. La plupart avaient été condamnés à des peines de prison ferme dans un procès de masse sans avocat et ont ensuite été graciés par Mahamat Déby.
En Gambie, la justice a condamné à 12 ans de prison un soldat reconnu coupable d'avoir voulu renverser le gouvernement du président Adama Barrow. La haute cour a condamné le soldat Sana Fadera pour trahison sur la dizaine de personnes mises en cause initialement en décembre 2022. La justice n'a maintenu les charges que contre 4 d'entre elles au cours du procès ouvert en janvier. Et sur les 4, elle en a finalement acquitté 3 mardi, qui étaient poursuivis pour ne pas avoir dénoncé les intentions de Sana Fadera. Au Niger, le procureur général près la cour d'appel de Niamey, Salisu Chaibou, affirme qu'il y a eu tentative d'évasion du président déchu Mohamed Bazoum. Ses avocats ont déjà rejeté ces accusations, les qualifiant de montée de toutes pièces. Claire Morin-Jibou.
Dans la nuit du 18 au 19 octobre, l'ancien président Bazoum, sa famille, sa sécurité, ses cuisiniers, transportant divers colis, ont été interpellés par des agents de la garde présidentielle alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais, a détaillé Salisu Chaibou à la télévision nationale. « Il s'agit de faits réels et non d'une mise en scène », a-t-il ajouté. Les avocats de M. Bazoum ont déjà rejeté ces accusations. Un véhicule attendait le président et ses proches pour les acheminer dans une maison appartenant à Mohamed Ben Amaï, un ancien membre de la garde rapprochée de Bazoum que le procureur a présenté comme le cerveau présumé de l'opération. Un hélicoptère devait ensuite les emmener à Birninkebi, dans le nord-ouest du Nigeria. 23 personnes civiles et militaires ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, a affirmé le procureur, rappelant aucune enquête est en cours. Mohamed Bazoum est retenu à Niamey avec sa femme et son fils depuis le coup d'État du 26 juillet.
Le roi Charles III a rencontré aujourd'hui des anciens combattants kényans au deuxième jour de sa visite dans ce pays d'Afrique de l'Est où il a condamné la veille les inexcusables abus coloniaux britanniques sans toutefois demander pardon. Cette absence de demande de pardon a été notamment déplorée par la Commission kényane des droits de l'homme, une ONG qui avait demandé au roi des excuses publiques inconditionnelles et sans équivoque. L'Allemagne, en revanche, a demandé pardon aujourd'hui pour les exactions commises par ses forces coloniales en Tanzanie, poursuivant un travail de mémoire sur cette période sombre de son histoire, longtemps occultée par les guerres mondiales et la Shoah. Je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait, subi ici à vos ancêtres, a déclaré le président allemand Frank-Walter Steinmeier en visite en Tanzanie. La fonction de chef de l'État en Allemagne est essentiellement honorifique, mais celui qui l'incarne a un rôle de caution morale dans le pays. Au Zimbabwe, un député de l'opposition a été enlevé ce matin, torturé puis abandonné nu le long d'une route. Takudzwa Ngadjore, 25 ans, le plus jeune député du pays, a été enlevé par des hommes armés près de son domicile à Harare alors qu'il se rendait au Parlement, selon la coalition des citoyens pour le changement. En Libye, plus de 260 entreprises locales et étrangères assistent ce mercredi à un forum international organisé par le gouvernement de l'Est censé réunir les propositions pour la reconstruction de Derna, sinistrée par les inondations meurtrières en septembre. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, la tempête Daniel a frappé la côte est de la Libye, provoquant des inondations amplifiées par la rupture de deux barrages en amont du Derna, qui ont fait des milliers de morts et disparus et plus de 40 000 blessés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des dizaines de blessés palestiniens ont quitté la bande de Gaza aujourd'hui pour être hospitalisés en Égypte. Des centaines de binationaux et étrangers doivent suivre une première dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le point avec Jacques Aristide.
Il s'agit d'un rare développement positif en 26 jours de conflit. Des télévisions ont diffusé l'entrée des ambulances du côté égyptien du terminal de Rafah, unique ouverture sur le monde de la bande de Gaza. L'accord entre l'Égypte, le Hamas et Israël a été obtenu sous médiation du Qatar et en coordination avec les États-Unis, indique une source diplomatique. D'après le Hamas, 7 otages, dont 3 détenteurs de passeports étrangers, ont été tués hier dans un bombardement israélien sur le plus grand camp de réfugiés de Gaza à Jabalia, une affirmation invérifiable dans l'immédiat. Selon Israël, ce bombardement a permis d'éliminer Ibrahim Biari, un haut dirigeant du Hamas. Fustigeant un nouveau massacre, le Qatar, impliqué dans les tentatives de résolution de la crise des otages, a mis en garde contre des opérations susceptibles de saper les efforts de médiation. La Turquie et l'Iran appellent à la tenue au plus vite d'une grande conférence internationale au moment où l'armée israélienne affirme avoir envoyé des bateaux de guerre en mer Rouge au lendemain de tirs de missiles qu'elle dit avoir interceptés par les rebelles Houthis au Yémen, proche de Téhéran.
La Chine, les États-Unis, l'Union européenne et une vingtaine de pays ont signé ce mercredi au Royaume-Uni la déclaration de Bletchley pour un développement sûr de l'intelligence artificielle lors du premier sommet international sur l'essor fulgurant de cette technologie. Eric Manirakiza.
Cette déclaration historique marque le début d'un nouvel effort mondial visant à renforcer la confiance du public dans l'intelligence artificielle en veillant à ce qu'elle soit sûre, a salué le Premier ministre britannique Rishi Sunak. L'Union européenne et les 28 pays se sont mis d'accord sur le besoin urgent de comprendre et gérer collectivement les risques potentiels de l'intelligence artificielle à travers un nouvel effort mondial visant à garantir que cette technologie est développée et déployée de manière sûre et responsable. Le milliardaire américain Elon Musk a souligné la nécessité d'un arbitre dans l'intelligence artificielle qui, selon lui, est l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur l'humanité. La vice-présidente américaine Kamala Harris a annoncé dans un discours à Londres la création d'un institut sur la sécurité de l'intelligence artificielle à Washington. Pendant 2 jours, dirigeants politiques, experts de l'intelligence artificielle et gérants de la tech sont réunis à Bletchley Park, au nord de Londres, à l'initiative du Royaume-Uni. Deux sommets internationaux sur l'intelligence artificielle vont suivre en Corée du Sud dans 6 mois, puis en France dans 1 an.
Et Eric Manirakiza, vous avez bien noté, les États-Unis vont lancer un institut de sécurité de l'intelligence artificielle afin d'évaluer les risques connus et émergents des modèles d'intelligence artificielle dits pionniers, a déclaré donc la ministre de la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo. Et puis, Joe Biden en campagne pour un second mandat se rend ce mercredi dans une ferme familiale du Minnesota, dans le nord des États-Unis, pour tenter de renouer avec l'Amérique rurale, qui a majoritairement voté pour son rival Donald Trump en 2016 comme en 2020. Cet État de la région des Grands Lacs se trouve au siège celui de Dean Phillips, parlementaire peu connu sur la scène nationale, qui vient de se lancer dans la primaire démocrate. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Au Sénégal, les communautés de pêche artisanale sont de plus en plus menacées par un grave déclin des populations de poissons. 76,5% des pêcheurs disent avoir pris beaucoup moins ou moins de poissons pendant la saison sèche qu'il y a 5 ans. Et 65% ont affirmé être souvent ou très souvent revenus d'une sortie sans aucune capture. En cause, des chalutiers contrôlés par des acteurs européens et chinois approvisionnent des marchés étrangers. Les exportations sénégalaises des produits de la pêche ont presque quadruplé entre 2008 et 2018. Au Cameroun, les MAFID ou Mutuelles Financières de Développement ont injecté 100 milliards de francs CFA depuis leur création il y a 20 ans. Soutenu par le ministère allemand de la Coopération économique et du développement, ce projet consiste à mettre en place un dispositif de financement agricole au sein des établissements de microfinance. En Libye, plus de 260 entreprises locales et étrangères assistent ce mercredi à un forum international organisé par le gouvernement de l'Est, devant réunir les propositions pour la reconstruction de Derna après des inondations meurtrières en septembre.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
La CAF a dévoilé la liste des nominés pour les catégories masculines des CAF Awards 2023.
La star nigériane Victor Osimhen, meilleur buteur de la Série A la saison dernière et des éliminatoires de la prochaine CAN, fait partie des 30 candidats désignés pour le titre de joueur africain de l'année. Les stars de l'équipe du Maroc dominent la liste. Il s'agit du gardien Yassine Bounou, du défenseur Achraf Hakimi, du milieu de terrain Sofiane Amrabat, de l'ailier Hakim Ziyech et de l'attaquant Youssef El-Nesri. Le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah, tous deux doubles lauréats du prix, ont également été nominés. On note aussi la présence de l'Ivoirien Seko Fofana d'Al-Nassr, du Guinéen de Stuttgart Serou Girassi, du Malien de Tottenham Yves Bissouma, du Burkinabé du Bayern Leverkusen Edmond Tapsoba, entre autres. La ville de Marrakech a été choisie pour accueillir la cérémonie de remise des prix le 11 décembre.
Basketball avec les résultats de la nuit dernière en NBA.
San Antonio de Victor Wembanyama a réussi un improbable retournement de situation pour l'emporter 115 à 114 sur le parquet de Phoenix de la star Kevin Durant. Les Spurs ont compté jusqu'à 20 points de retard dans le troisième quart-temps et sont remontés progressivement. De leur côté, les New York Knicks ont dominé les Cleveland Cavaliers 109 à 91. Les Los Angeles Clippers ont, eux, conquis leur troisième victoire en 4 matchs face à Orlando, 118 à 102, sous les yeux de leur nouveau coéquipier James Harden, en tribune après l'annonce de son transfert depuis Philadelphie.
Balle au panier toujours, Joel Embiid sanctionné d'une amende.
Le pivot camerounais des Philadelphia Sixers, meilleur joueur de la saison dernière, a été sanctionné d'une amende de $35,000 pour geste obscène lors de la victoire de son équipe face à Portland dimanche. Après un layup réussi malgré la faute d'un adversaire, Joel Embiid a célébré son action à la façon de l'ancien groupe de catcheurs dit Generation X, bras croisés sur le bas-ventre, un geste jugé obscène par la NBA. Embiid avait déjà utilisé ce geste en match et expliqué il y a plusieurs années son admiration pour ses ex-stars du catch. Le Camerounais réussit un bon début de saison avec les Sixers, 2 victoires et 1 défaite avec 31 points par match en moyenne. Philadelphie accueille Toronto demain, jeudi.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, la tension est montée d'un cran à Kidal après le départ de la MINUSMA de cette localité du nord. Les rebelles Touareg regroupés au sein du cadre stratégique permanent disent avoir pris le contrôle du camp de la mission onusienne. Kadiatou Traoré a joint à Kidal un habitant de la localité.
Après le départ de la MINUSMA, les gens pensaient que ça allait très mal passer. Parce que nous, on pensait que l'armée va intervenir de façon musclée pour prendre le camp. Mais on n'a pas vu l'armée, on n'a pas vu des avions, on n'a rien vu. Mais quand la MINUSMA est partie, la population s'est emparée du camp, ils sont emparés de tout ce qui est à l'intérieur. Il n'y a pas eu une différence entre noir et blanc, entre Kamaché, non. Donc tout ce que tu peux prendre, tu vas le prendre. Mais la terre a beaucoup diminué, il n'y a pas eu des affrontements, comme les gens le pensaient. Et quand même, la MINUSMA s'est coupée dans la ville. Donc s'il y a eu des affrontements autour du camp, ça ne peut pas être la ville non plus. C'est juste qu'ici, les gens pensent que peut-être l'armée va venir aujourd'hui ou demain, dans les jours à venir.
Après le départ de la MINUSMA, ceux qui avaient fait mener la rébellion et se sont emparés du camp, est-ce vrai?
Je pense qu'au camp, pour regarder qui est rentré, qui est sorti, qui a pris le camp. Mais tout ce que je sais, quand même, tout le monde est rentré, les hommes en uniforme ou même les civils. Tout le monde est rentré dans le camp, sans exception. Comme témoignent les vidéos, les images, les gens qui sont rentrés dans le camp, c'est pour protéger le camp, parce que c'est eux qui assurent la sécurité de la ville.
Un habitant de Kidal, dans le nord malien, Modibo Dembélé a aussi joint sur place Sidi Amar, un habitant de la ville.
Le départ de l'aménagement hier, donc on peut noter que la situation elle est un peu inquiétante. Maintenant, reste à savoir quelle est la suite qui sera donnée au départ de l'aménagement, vu que les troupes maliennes, l'armée malienne n'est pas loin de Kidal, ils sont à 600 et quelques kilomètres de Kidal. Donc la situation elle est telle que, bon voilà, il n'y a plus d'emploi pour les jeunes qui travaillent au niveau de l'aménagement et sur les plans également alimentaires, les choses commencent à devenir un peu difficiles. Donc en général, on peut dire que la situation elle est un peu difficile actuellement à Kidal.
Qui occupe actuellement les locaux des emprises de l'aménagement?
Les emprises de l'aménagement à Kidal, en tout cas pour le camp de l'aménagement, est occupé par le CSP, qui est la composante de la CMA qui occupe les camps de l'aménagement actuellement aujourd'hui, et à l'interne et à l'extérieur. Parce que le CSP a donné ordre aux civils de s'éloigner du camp, et parce que, comme vous le savez, les gens craignent notamment des raids aériens, des drones et des avions de chasse. À l'intérieur même du camp de l'aménagement, nous avons ce qu'on appelle des bunkers qui ont été déjà construits par l'aménagement, donc forcément les CSP vont les utiliser pour souvent se barricader pour pouvoir mener peut-être une résistance.
Est-ce que des pourparlers sont en cours actuellement entre les CSP et puis les autorités maliennes?
On n'a pas entendu des pourparlers qui ont été engagés, parce que les seuls pourparlers qui étaient initiés par certaines des personnes de bon office au début même de l'offensive malienne vers Kidal ont été stoppés. Maintenant, il n'y a pas de pourparlers à ce qu'on sache jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Sidi Amar, un habitant de Kidal, dans le nord du Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Burkina Faso, la 5e édition du Festival international Poulakou s'est tenue le week-end dernier à Ouagadougou. Le Festival du Vivre Ensemble se veut un canal pour passer des messages qui vont sensibiliser et contribuer à la lutte contre le terrorisme. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Le festival était à l'arrêt depuis 5 ans à cause de l'insécurité. Cette année, le festival revient comme une édition de la Renaissance. Le festival veut utiliser les expressions culturelles du pays au service de la cohésion sociale et de la lutte contre l'extrémisme violent. Essentielle thématique de la présente 5e édition. Brema Barry est le coordinateur du Festival international Poulakou.
Nous avons une culture qui doit unir, de faire même du dynamisme culturel burkinabé. Nous sommes un, liés par le sang, liés par les mariages interethniques. Donc nous devons avancer ensemble. Donc nous sommes vraiment comblés pour ce festival-là qui a réuni tout le monde, et même au plan international.
Tous les participants sont convaincus que la culture peut contribuer dans la lutte contre le terrorisme. Amadou Diko, leader Peul.
C'est un appel que je fais à tout Burkinabé, et chacun où il soit, qu'il puisse apporter sa contribution afin que nous puissions ensemble travailler dans cette équipe, afin qu'on soit libérés, qu'on puisse répartir dans nos contrées, dans nos 45 provinces que nous avons à tout moment.
Les autorités du pays ne peuvent que saluer de pareilles initiatives. Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Culture.
La culture poulard, le poulakou, véhicule des valeurs culturelles de solidarité, de fraternité, des valeurs de respect mutuel, des valeurs de tolérance. Et je pense que c'est l'occasion, à travers cette édition de la relance, là, à travers les différents panels, de pouvoir donc échanger, approfondir la réflexion pour bâtir véritablement le Burkina de demain. La cohésion durable que nous souhaitons sur un fondement solide, le socle de la culture. Et nous en avons la conviction au regard de la qualité des panélistes qui ont été choisis.
Le Festival international Poulakou a refermé ses portes dimanche soir. Les festivaliers se penchent sur la prochaine édition en 2024. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Nous devons vivre et ensemble, les enfants de mes pays.
Au Nigeria, une conférence internationale sur la sécurité alimentaire a réuni les représentants de quelques pays africains à Abuja pour parler de la sécurité alimentaire. En juillet dernier, le président nigérian Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence pour faire face à l'inflation qui menace la sécurité alimentaire du pays. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
La sécurité alimentaire reste un défi majeur au Nigeria, où des millions de personnes sont confrontées à la faim et à la malnutrition. Les rencontres des experts se multiplient pour réfléchir autour de la question. La deuxième conférence de ce genre en 2 mois s'est tenue ce week-end à Abuja. Nzigani Paul, représentant de l'Agence internationale des héros de l'alimentation.
Nous voulons avoir la sécurité alimentaire en Afrique. Nous voulons parler de la sécurité alimentaire. Comment nos aliments destinés à la consommation propre, pour une Afrique durable, pour une Afrique plus saine. Nous voulons garantir un processus propre, de la graine à la consommation.
Pour résoudre ces problèmes, il faut des stratégies globales qui s'attaquent aux causes profondes. De nombreux agriculteurs, en particulier dans le nord du Nigeria, ont dû abandonner leurs terres à cause des bandes criminelles. Mafi Kuyomi, Ayode Ofren, participant.
Il y a de nombreux défis. Nous avons les bandits, nous avons les mauvaises routes, et vous savez, le manque d'équipement pour nos agriculteurs et les engrais, ce sont les choses que nous allons débattre aujourd'hui. J'ai rédigé un article fouillé parce que je suis l'un des orateurs. J'ai un document très détaillé pour faire comprendre le problème aux gens. Il ne s'agit pas juste de se rassembler et de parler. Nous connaissons tous les problèmes et nous avons même la solution. Mais le problème, c'est le manque de volonté politique et la volonté pour trouver les situations.
Certaines ONG agricoles comme Megui Goto Farm ou Retournons à l'agriculture est un programme visant à sensibiliser les Nigériens à la nécessité de retourner à la terre et soutenir des projets de start-up de transformation, ce qui permettra de réduire l'insécurité alimentaire et la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché local. Obodna Martins, fondateur de Quebec Foods.
Nous pensons que les meilleures raffineries qui devraient être construites en ce moment devraient être les raffineries alimentaires, les infrastructures alimentaires. C'est donc un sujet sur lequel je pense qu'une organisation comme celle-ci, un événement comme celui-ci a beaucoup à offrir et nous sommes parfaitement préparés.
En juin dernier, le président nigérian Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence sur la sécurité alimentaire. Parmi les initiatives prises, il est prévu d'utiliser l'argent économisé grâce à la récente suppression de la subvention sur les carburants pour fournir des engrais et des céréales aux agriculteurs. Bola Tinubu prévoit aussi d'assurer la protection des agriculteurs, souvent victimes d'enlèvements. Kabir Ibrahim, président de l'Association nationale des agriculteurs du Nigeria, AFAN.
The most important threat factor.
Le facteur qui menace le plus la productivité est l'insécurité. Donc si le président fait de la sécurité alimentaire une question de sécurité nationale, cela signifie qu'il est prêt à s'attaquer au problème de l'insécurité qui nous empêche d'aller dans nos champs et de produire de manière optimale.
La persistance des conflits, le changement climatique, l'inflation et la hausse des prix des produits alimentaires sont les principaux moteurs de cette tendance alarmante affectant l'accès à la nourriture dans les États de Borno, Adamawa et Yobe au nord-est. Pour ce qui concerne les États du Nord-Ouest et du Centre, ce sont les enlèvements et le banditisme qui y menacent les activités agricoles. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le président Joe Biden est confronté à la révolte de certains membres du Parti démocrate en raison de son soutien indéfectible à Israël alors que Tel Aviv étend ses opérations terrestres à Gaza. Les précisions de la correspondante en chef de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, le récit avec Eric Manirakiza.
Alors que les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza, y compris l'attaque sur le camp de réfugiés d'Al-Shati, une lettre ouverte adressée au président Joe Biden par le groupe de défense du Conseil national démocratique musulman exige qu'il négocie un cessez-le-feu d'ici 17h mardi, sous peine de voir des millions de musulmans américains retirer leur soutien à sa réélection l'année prochaine. C'est ce qu'exprime Bassim El-Kara du Conseil national démocratique musulman.
Nous savons pertinemment que notre communauté fera la différence dans les États clés. Je pense que les dirigeants du Parti démocrate y prêtent attention, qu'ils ont peur de ce qui se passe et qu'ils envoient des messages à la Maison-Blanche pour lui dire que cela va nuire à nos chances en 2024.
Plus d'un million d'électeurs musulmans ont voté lors des élections de 2020, un nombre suffisant pour faire basculer la course à la présidentielle dans certains États clés. Les musulmans et les arabes américains votent traditionnellement pour des candidats démocrates, mais un changement est peut-être en train de se produire. Un nouveau sondage réalisé par l'Institut arabo-américain a montré que le soutien à Biden avait chuté parmi les électeurs arabo-américains, passant de 59% lors de l'élection de 2020 à 17% avant celle de 2024. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, prend cette question au sérieux.
Nous allons continuer à nous engager, à dialoguer avec la communauté musulmane, la communauté américaine arabe et les dirigeants américains palestiniens pour écouter leurs préoccupations.
En revanche, les Juifs américains apprécient profondément le soutien de Biden à Israël. Suivez Hallie Seufer du Conseil démocratique juif d'Amérique.
Israël est une question importante, demeure une question très importante pour les électeurs juifs. C'est une question qui suscite un attachement émotionnel très fort entre les Américains juifs et leur soutien à Israël.
Environ 7 millions de juifs vivent aux États-Unis, soit le même nombre qu'en Israël. Ils représentent 3% de l'électorat américain. Joe Biden est également très apprécié en Israël. Il a exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à mener la guerre dans le respect du droit humanitaire international afin de protéger les civils. Jonathan Reynolds de l'université Bar-Ilan analyse l'approche du président Biden.
Ce qu'il dit à Israël, c'est de m'aider à vous aider. Si vous faites le maximum d'efforts pour combattre de la bonne manière, selon les lois de la guerre, cela facilite ma capacité à vous soutenir et obtenir un soutien pour vous au sein de la communauté internationale, à la maison en Amérique et au sein du Parti démocrate.
Les sondages montraient que plus de républicains que de démocrates approuvent la décision de Joe Biden d'envoyer des armes à Israël. Suivez Norman Ornstein de l'American Enterprise Institute.
Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour les républicains, que ce soit Trump ou les républicains au Congrès, pour prendre le contre-pied de Biden en termes de soutien à Israël.
Entre-temps, il y a une pression croissante en faveur d'un cessez-le-feu, notamment de la part de manifestants anti-guerre lors de l'audition de mardi au Congrès. Les représentants de l'administration ont plaidé en faveur de pauses humanitaires pour permettre l'acheminement de l'aide aux civils, mais ils affirment qu'un cessez-le-feu à ce stade ne profiterait qu'au Hamas.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Joselle Morissin, un grand merci à la rédaction et à l'équipe de production. Je vous souhaite un coup de